Bonjour à tous. Et d'abord, cet accident spectaculaire hier soir à Saint-Loup-la-Mairie. Une voiture a fini sa course dans le ruisseau au niveau de la laiterie vers 18h20. Le conducteur du véhicule, un homme de 48 ans, était sorti de la voiture avant l'arrivée des secours. Malgré une chute d'environ 4 mètres, il n'a été que légèrement blessé. Souffrant de contusions, il a été transporté vers l'hôpital de Fay-la-Besse. La passerelle du pont sur la départementale 29 a été emportée par la voiture. Un écoulement de carburant a d'ailleurs été constaté dans le cours d'eau à la suite de l'accident. Les pompiers ont installé 2 barrages absorbants pour endiguer la pollution. Le véhicule a été sorti de l'eau hier dans la soirée. Une voiture fortement accidentée a été retrouvée dans un fossé à la sortie de Pierrefitte en direction de Fay-la-Besse hier matin. Lorsque les gendarmes sont intervenus, conducteurs et passagers n'étaient plus sur place. La voiture contenait de nombreuses bouteilles vides dispersées dans le véhicule avec une forte odeur d'alcool. Le dépanneur a permis d'identifier les propriétaires, un couple de Fay-la-Besse. Personne ne semble avoir été blessé après l'accident. Pourtant, il s'agirait d'un choc frontal, mais aucune trace non plus d'un autre véhicule. La gendarmerie lance un avis de recherche pour un homme de 73 ans porté disparu à Effre, à côté de Niort, depuis hier matin. Ce résident de l'EHPAD Les Jardins du Château d'Effre a quitté l'établissement dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon noir et de baskets beige. Il mesure environ 1m80. Assez corpulent, il se déplace avec difficulté. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le 17. Le Covid-19, ralentissement de la circulation virale en Nouvelle-Aquitaine avec une diminution de l'ensemble des indicateurs selon les données fournies hier par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. L'épidémie demeure à un niveau élevé tout de même avec un taux d'incidence 74 qui est toujours supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 pour 100 000 habitants. Le département des Deux-Sèvres se distingue comme étant le territoire où le virus circule le plus avec un taux d'incidence nettement supérieur, 140 pour 100 000 habitants. La Charente-Maritime est à 42. Concernant les élections régionales, Armel Cassin et Dominique Six, qui s'inscrivent dans le mouvement de la droite et du centre, ont présenté leur liste pour le département des Deux-Sèvres. Y figurent Émilie Baudré de Tillou, Sébastien Rochard de Coulonges-Touarçais, Karine Hervé de Parthenay, Mathieu Manceau d'Hervaux, Sylvie Bellané de Thouars, Laurent Petit de Bressuire, Sonia Béranger de Niort, Julien Seigneuret d'Exireuil, Nathalie Moreau de Bressuire, Eddy Corillo de Saint-Mexant, Flore Reynard de Romans, Hugo Parnaudot de Niort. Et en ce qui concerne les élections départementales, cette fois, l'équipe Relance 79, qui se présente avec le soutien de la majorité présidentielle, a présenté plusieurs binômes hier. Sandrine Bailly et Khaled Benaziz sur le canton de Niort 1, Patricia Bizarre et Xavier Lallemand sur le canton de Niort 2, Marie-Odile Brault et Claude Sanga sur Niort 3, Jérôme Chouteau et Oubarifi forment le binôme sur le canton de Autizes-Aigret. À Noirterre, la réhabilitation du presbytère va coûter plus cher que prévu. Les marchés signés fin 2020 se chiffraient à un peu moins de 400 000 euros, 393 000 exactement, pour faire de l'ancien presbytère la nouvelle mairie. Mais il va falloir rajouter 50 000 euros pour consolider le bâtiment suite à la déconstruction, faisant apparaître des problèmes de structure. Il va aussi falloir remplacer le plancher. Alors fallait-il se lancer dans une réhabilitation? Je crois qu'on y serait quand même allé, à trancher Emmanuel Ménard, après un petit débat en conseil municipal de Bressuire lundi soir.
Il y a deux opinions. Hein. Celle de dire l'ancien nous réserve certaines fois des mauvaises surprises. La Noirterre, c'était un plancher et un mur, donc il a fallu complètement restructurer. Mais d'autres personnes vont vous dire qu'au contraire, il faut toujours réhabiliter pour éviter la consommation de terrain, de coûts qui peuvent finalement s'élever supérieurs. Moi, je crois que c'est au cas par cas qu'il faut regarder les choses dans le fonctionnement futur, dans le coût évidemment, dans l'environnement, dans l'utilité du service qu'on veut rendre à la population. Donc c'est des choses que nous devons étudier à chaque projet qui se présente devant nous.
On donne d'une certaine manière l'exemple à la population en réhabilitant le vieux patrimoine, mais il faut s'en donner les moyens, a souligné Anne-Marie Barbier. Il faut parfois mieux démolir que de rester dans l'ancien, estime de son côté Pierre Bureau. Le maire délégué de Noirterre assume la décision prise il y a déjà pas mal de temps, Jean-François Moreau.
C'est vrai qu'on s'est posé les questions déjà au début du mandat précédent, puisque c'est un projet qui date depuis 2014, au fait, cette réhabilitation de presbytère. On avait fait des simulations de dire est-ce qu'on fait du neuf, est-ce qu'on rase une partie, est-ce qu'on fait une réhabilitation complète. Et puis l'équipe précédente, avec Jean-Michel Bernier, on avait décidé que c'était plus intéressant pour Noirterre de garder ce patrimoine, même si ça coûte un peu plus cher que de faire du neuf, parce que c'est un bâtiment emblématique de la commune. On a peu de bâtiments patrimoniaux à Noirterre, donc c'était important de le garder, même si ça coûte un peu plus cher que de faire du neuf.
Toujours est-il que les avenants présentés en conseil municipal de Bressuire lundi soir ont été validés. Que ce soit dans le neuf ou l'ancien, il faut d'ailleurs s'attendre à des travaux coûtant plus cher du fait de la hausse du coût des matériaux, a averti Yannick Charrier, adjoint en charge des travaux. Coup dur pour Mouton Village, dont la réouverture se voit de nouveau reportée. Le parc animalier de Val devait normalement rouvrir ses portes aujourd'hui. La cause du report, une suspicion de tremblante ovine chez Daniel, vendue en juillet 2011. La direction de Mouton Village serait dans l'attente d'une contre-expertise, même si ça fait 10 ans que l'animal a quitté l'élevage. Avec la municipalité, elles ont décidé de reporter l'ouverture du parc par précaution envers le public. Aucune date de réouverture n'a été annoncée pour le moment. Terra Botanica a ouvert sa 12e saison ce mercredi avec sa grande nouveauté, les mystères de la forêt. Apprendre en s'amusant autour du monde végétal, c'est bien la volonté de Terra Botanica, premier parc à thème européen qui s'étend sur une vingtaine d'hectares à Angers dans le Maine-et-Loire. Vous y apprécierez sans doute cette saison encore les grands classiques qui en font sa renommée. Jardins, serres et espaces aquatiques jalonnés d'attractions, dont le désormais célèbre voyage en coquille de noix ou la montée à bord du plus gros ballon à gaz du monde. Une déjà bien belle balade qui s'agrémente cette année d'un nouvel univers baptisé les mystères de la forêt. Il s'agit là de la première extension du parc depuis son ouverture en 2010. 7000 m² dans la forêt où trois géants de 4 mètres de hauteur vous accueillent au milieu des chênes et des châtaigniers. C'est avec un enthousiasme non dissimulé que les responsables du lieu nous l'ont fait découvrir, à commencer par le directeur Pierre Voitrelot au micro de Jacqueline Pilon.
Ils sont gardiens de la forêt, ils sortent de terre, ils ont 4 mètres de haut, ils sont tous bienveillants. La totalité en fait des gens ont été construits à travers des matériaux de recyclage, des palettes, du bois recyclé, et également leurs bras sont faits à travers des branches ou des troncs qui ont été récupérés sur la forêt elle-même. Donc l'ensemble des gens ont été faits avec des matériaux recyclés, ils racontent leur histoire et ils sont en train de garder notre mystère de la forêt. En même temps, il y a un vrai parcours, un parcours de filet où nos visiteurs vont surplomber les basses vallées angevines en ayant vraiment cette sensation de parcourir les cimes avec une forêt qui va prendre l'ensemble de son feuillage.
Robur, Mycéna et Locas ne se contentent pas d'attirer le regard, mais vous livrent les secrets des arbres, havre pour la biodiversité terrestre. C'est Boris Barré, le jardinier médiateur du parc, qui nous transmet sa passion.
Locas, c'est l'un des trois géants qui va représenter le langage de la forêt. Alors, le langage de la forêt, c'est pas le nôtre. Hein. Donc, ces géants-là, ils prennent forme humaine. C'est-à-dire, c'est la forêt qui s'adapte à nous, qui se met à notre niveau pour s'expliquer. Et Locas, lui, être Locas, c'est parler beaucoup, je sais ce qu'il en est. Et lui, il explique que les arbres communiquent, ils sont connectés de manière invisible, que ce soit par leurs racines et par des réseaux mycéliens, donc des champignons, ou que ce soit de la communication par des gaz. Quand un arbre est stressé et est attaqué, il va émettre des gaz de stress qui vont prévenir ses congénères, voire même d'autres espèces, qui vont pouvoir se préparer à une invasion d'insectes, de champignons ou autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est, il faut pas rentrer non plus dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire dire qu'un arbre rigole, dire qu'un arbre est triste, etc. Mais voilà, il y a un autre langage derrière. Et comme c'est des recherches qui évoluent, tous les ans, on sera amené à enrichir notre discours, notamment à cet endroit-là, sur la communication entre les plantes. C'est fascinant.
Une expérience sensorielle, ludique et pédagogique à la fois, dans cet univers qui offre une grande respiration pour un moment d'évasion particulièrement bienvenue en ces temps si particuliers. De quoi plaire à toute la famille à Terra Botanica. On passe au sport et la nouvelle défaite des Choletais hier soir à la Meilleraie. Les basketteurs Choletais ont été battus 87 à 98 par Chalon-Reims. Après une première mi-temps correcte, les hommes d'Herman Kunter ont connu un trou d'air qui coûte une nouvelle défaite. Au classement, les Choletais n'ont plus de marge. Chalon-sur-Saône ayant gagné à Boulazac, 5 équipes sont dans le même cas.
On a besoin d'un moteur, un accélérateur, mais malheureusement, nos joueurs accélèrent. Les toits sont un peu fatigués. Les autres, on essaie, mais bon, ce ne sont pas des moteurs. En disant que ce sont des joueurs un peu plus complémentaires, ce n'est pas des moteurs. Le problème, c'est ce qui manque, c'est le combat. Voilà, c'est défense des joueurs extérieurs, ça c'est sûr. Moi, je vais faire le maximum.
On espérait que les Choletais allaient profiter du retour des supporters avec 800 personnes, mais cela n'a pas suffi. Écoutez la réaction d'Alain et David, deux des privilégiés, hier soir au micro de Vincent Nori.
Il y a eu une première mi-temps, je dirais, à peu près potable. Par contre, il s'écroule complètement en deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps où ils perdent le match.
Ça vous inquiète, vous, supporters?
Oui et non, parce que la saison n'est pas finie, mais c'est vrai que on peut se poser des questions. On peut se poser des questions.
Votre sentiment?
Il y a des gros matchs pour la fin de la saison et ça risque d'être difficile. Et on voit une défense qui est quand même assez pauvre, notamment à l'intérieur. C'est vraiment très pauvre. Et il y a une certaine frustration parce qu'on voit qu'il n'y a pas de solution qui arrive. Et à chaque fois, c'est on essaie de, enfin chaque joueur essaie de marquer et de faire une performance personnelle. national, mais il n'y a pas trop de collectifs. Et c'est ça le problème. Maintenant, il reste 7 ou 8 matchs. Il y a quand même 3 ou 4 grosses écuries qu'on va jouer. Il faut réussir les autres matchs.
Prochain match pour Cholet Basket, mardi à Limoges. En football, les Chamois vont-ils être capables de renverser la tendance ce soir? C'est toute la question à moins de 24 heures du coup d'envoi d'un match crucial pour l'avenir des Chamois Niortais en Ligue 2. Battu 3-1 par Villefranche mercredi lors du match aller, les footballeurs niortais devront s'imposer au moins 2-0 pour sauver leur peau. Au vu des dernières prestations, il y a de quoi être pessimiste, mais en football, tout est possible et le coach Sébastien De Sabre espère encore un sursaut d'orgueil.
Les barrages, ça va se jouer après deux matchs, pas simplement après un match. Donc on peut même dire que peut-être que le résultat nous donne encore plus de motivation. L'état d'esprit du club, c'est aujourd'hui de faire l'union sacrée pour pouvoir se sauver. Vous le savez très bien que sur les matchs, on a eu des difficultés, effectivement, techniquement, tactiquement, mais en tout cas, sur les jeunes joueurs qu'on a, on essaye de se battre tout le temps, et ça sera encore le cas demain soir. Les gens peuvent compter sur le groupe, sur tous ceux qui font partie du groupe et du staff pour pouvoir se battre jusqu'à la fin et créer ce moment de sensation dont on a besoin.
Par rapport au match aller, les Chamois Niortais auront des atouts supplémentaires avec les retours de Passy, Luisère et Jacob qui figurent parmi les hommes forts de la saison. On peut espérer aussi un relâchement de Villefranche qui s'y verrait déjà en Ligue 2, mais Sébastien De Sabre préfère se concentrer sur son équipe qui doit surtout faire preuve de beaucoup plus de rigueur défensive et une certaine furia offensive.
Moi, ce qui m'importe, c'est mon équipe, c'est la qualité du football qu'on va proposer demain soir pour pouvoir faire des vagues et mettre sous pression cette équipe. On sait que si elle prend un but, après, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'on aura, nous, un rush où on va y croire. Et c'est ça qui est important, c'est de les mettre sous pression. Ils savent de toute manière, vous savez, vous pouvez très bien dire que vous êtes déjà en Ligue 2. Ils savent très bien que que ça ne va pas être facile ici et que s'ils prennent un but ici, ils seront en difficulté.
Sébastien De Sabre, entraîneur des Chamois Niortais à la veille de Niort-Villefranche ce soir à 20h45. Match à suivre sur Colline avec au commentaire Vincent Nori sur tous les fronts ce week-end. En rugby, Bertrand Casamayou a été choisi pour remplacer Sébastien Morel en partance pour le Stade Rochelet. Bertrand Casamayou, 40 ans, en charge des espoirs d'Angoulême, présentait le bon profil pour former un binôme avec Laurent Dossa, plus particulièrement en charge des lignes arrières. L'actualité rugbystique, c'est aussi bien sûr les vêtements pour la Rochelle. Les regards sont tournés vers Twickenham où les jaunes et noirs affronteront aujourd'hui Toulouse en finale de la Coupe d'Europe.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
La journée s'annonce pas terrible sur les Deux-Sèvres. Les rares averses de ce matin vont se transformer en pluie orageuse cet après-midi et des rafales de vent à 70 km/h. 5 degrés ce matin, 16 pour les températures maximales cet après-midi. Demain, la journée sera plus agréable, même si ça va encore souffler. De belles éclaircies, sans pluie l'après-midi. Nouvelle perturbation pluvieuse lundi matin et de rares averses se partageront le ciel avec le soleil pour finir ce week-end de la Pentecôte.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.